Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Aujourd'hui, je reçois un grand personnage. Oui, c'est un grand écrivain suisse, francophone, d'origine turque, c'est Metin Arditi. Bonjour Metin.
Bonjour Viviane.
Mais vous n'êtes pas qu'écrivain, comme on va le voir. Vous êtes un monsieur multifacette, que j'admire beaucoup, dois-je le dire, bien que j'ai ici à ce micro souvent des gens que j'admire. Alors on va commencer par cette question rituelle que je vous ai posée il y a 11 ans, mais en 11 ans, les auditeurs changent. Quel petit garçon étiez-vous ?
Alors là, je pense qu'il faut mettre une barrière à avant 7 ans et après 7 ans. Parce qu'avant 7 ans, jusqu'à 7 ans, j'ai grandi dans ma famille à Istanbul, très heureux, une période merveilleuse, des parents aimants, bourgeois. Et puis surtout, j'avais, pendant la plupart de ces années, disons depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, j'avais une gouvernante qui m'aimait infiniment, qui a beaucoup marqué ma vie. Alors c'est une personne très, très simple, mais elle avait quelque chose de biblique. C'était une Autrichienne d'origine, catholique, très croyante, qui m'amenait chaque dimanche à l'église, qui me faisait réciter le Notre Père, avec l'accord de mon père, parce qu'il était tout à fait laïque. Et mes parents avaient perdu un enfant avant ma naissance et avant la naissance même de ma sœur aînée. Et donc ma mère avait toujours la crainte de mal s'occuper de ses enfants, alors qu'elle n'était en rien responsable du décès de sa première fille. Et donc j'étais très largement confié à cette gouvernante que j'avais surnommée Madame Mika, c'est-à-dire Petite Madame, parce qu'elle avait la cinquantaine, elle était mère de famille. C'est des années merveilleuses. Et puis à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont mis en internat, en
7
Suisse.
7 ans, c'est jeune pour ça.
7 ans, c'est jeune. Et la distance entre Lausanne et Istanbul n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, il y avait des transports qui étaient beaucoup plus compliqués. Donc après, c'était 11 années d'internat, 11 années de grande solitude, avec très peu de contact avec les parents.
Mais Tine, que faisaient vos parents ?
Alors, mon père était importateur de matériel scientifique en Turquie, il gagnait très bien sa vie. Ma mère était femme au foyer.
Donc, et vos frères et sœurs, donc vous aviez des...
J'avais une sœur, toujours une sœur, oui, qui habite Genève.
Elle est restée à la maison.
Jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 14 ans, elle est restée en Turquie.
Donc en fait, vous avez été coupé des parents, de votre sœur, de votre gouvernante.
Oui.
Et tout à coup, donc la solitude à 8 ans.
À 7 ans.
À 7 ans.
7 ans et 3 jours, j'étais casé en internat. Alors, évidemment, vous me posez la question, qu'est-ce que j'étais comme... Petit garçon, avant, jusqu'à 7 ans, on disait en turc yaramas, c'est-à-dire turbulent, mais très aimant. Et puis après 7 ans, moins turbulent, parce que sans ça, il y avait des punitions.
Oui.
Mais moins aimant et certainement moins aimé aussi.
Oui, probablement. Alors après, vous faites quel genre d'études ? Ça se passe bien ? Vous êtes un bon élève à l'école ou moyen ?
Ah non, à l'école, ça ne va pas si mal. J'ai 2 ans d'avance, je suis premier de classe.
Ah oui.
Et puis j'avais jusqu'à l'âge de 14 ans, donc j'avais 2 ans d'avance, donc jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais à 2 ans de la maturité fédérale, c'est une école privée. Et jusqu'à l'âge de 14 ans, je pense que je devais avoir un syndrome Asperger parce que je n'ai pas ouvert un livre.
Qu'est-ce que c'est un syndrome Asperger pour nos auditeurs ?
C'est un syndrome associé à l'autisme par lequel on a des capacités mémorielles très fortes et en même temps un intérêt très focalisé sur un ou deux domaines.
Qu'est-ce que c'était ces domaines ?
Alors, en fait, pour moi, le syndrome Asperger, évidemment, il a 36 000 formes, n'est-ce pas, d'expression. Pour moi, c'était la mémoire. Le domaine, c'était le théâtre. Parce que le théâtre était, pour moi, la façon... Le rapport au public me procurait les émotions les plus proches de celles qui auraient pu être celles de la maman qui vous prend dans les bras. Je le raconte dans un de mes romans que j'ai intitulé « Loin des bras ». Ce n'était pas un hasard. Quand on est comme ça en internat, on est seul, et à cette solitude correspond, on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment, on ne s'en rend pas compte du tout sur le moment, parce qu'on ne fait pas les analyses. Mais il y a une honte qui est associée.
C'est peut-être une grâce d'état de ne pas s'en rendre compte.
Pourquoi, heureusement, oui, pourquoi est-ce qu'on est là, au fond, pourquoi est-ce qu'on nous a mis là? Là, avec le théâtre, je me suis rendu compte par la suite que cette solitude honteuse, au moment où on est à l'avant de la scène et qu'on reçoit les applaudissements, cette solitude honteuse devient une solitude glorieuse.
Ah, parce que vous avez donc, quand vous dites le théâtre, vous avez joué au théâtre.
Oui, on faisait beaucoup de théâtre à l'école. Voilà. Et moi, j'étais d'emblée, dès l'âge de 7 ans, j'étais pris là-dedans. Et je consacrais beaucoup de temps à ça. Et donc, là, c'était vraiment... moi, je pense que le théâtre m'a sauvé la vie.
À ce point-là?
Oui.
À ce point-là.
Oui, oui.
Alors ensuite, les études sont brillantes.
Bon, donc, j'étais très bon à l'école. Ensuite, j'ai fait des études de physique à l'école polytechnique.
Mais j'ai vu que vous avez un diplôme en physique. Et puis alors après, ce qui m'a beaucoup
impressionné, génie atomique.
Un diplôme de troisième cycle en génie atomique.
Voilà, c'est-à-dire le génie atomique, c'est... La théorie est également la pratique des réacteurs. C'est-à-dire que dans un réacteur nucléaire, il y a des phénomènes physiques, mais il y a aussi tout un aspect très important, on le sait aujourd'hui, qui est le côté génie civil, la construction, la sécurité. Et puis après, j'ai été faire d'autres études aux États-Unis.
À Stanford.
Et puis voilà, j'ai fait la business school, un MBA. Et puis je suis rentré en Europe. Je suis rentré chez McKinsey, où je suis resté 2 ans, je m'étais dit je vais rester 2 ans, je suis resté 2 ans en serrant les dents.
Pourquoi en serrant les dents?
J'aimais beaucoup le travail et je ne pouvais pas supporter la hiérarchie. Ah. Et je crois que les 11 années d'internat ont fait de moi quelqu'un de malheureusement incasable, pas incassable, mais incasable avec un seul S. Dans une structure hiérarchique. C'est pas possible. Et donc j'ai quitté sans savoir ce que j'allais faire, sachant en tout cas que je n'allais pas rentrer dans une grosse organisation. C'était exclu. Et donc, tant qu'à faire, je me suis mis à mon compte à 27 ans. Voilà,
on va voir
Genève.
Ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Ça, je vous laisse le soin de le prononcer, mon cher Médine.
Alors, on écoute une chanson qui s'appelle « Üsküdar'a giderken »« En allant à Skutari », qui est une chanson populaire turque qui m'est très proche.
On l'écoute.
Radio Cité Genève, Viviane Devitt.
La bouteille à moitié pleine.
Gözlerim ahmış, katip uykudan. hoş gözlerim ah hoş. Katip benim ben katibin elle karışır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Güzel yaraşır. Katip benim ben katibin elle karışır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Métinarditi, avec lequel on vient d'égrener quelques souvenirs d'enfance et de jeunesse, et on vient de voir qu'il a mal supporté la hiérarchie de l'internat de son enfance, qu'il est maintenant à son compte. Alors qu'est-ce que vous avez fait en étant à votre compte? Parce que ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est qu'avant de devenir écrivain, un écrivain à succès, on va en parler tout à l'heure, vous avez quand même fait un certain succès dans la vie des affaires.
Alors, c'était assez simple. Quand je me suis mis à mon compte, je ne savais rien faire. Je n'avais jamais vendu une paire de bretelles. Je ne savais pas ce que c'était qu'une facture, qu'une lettre de crédit. Donc j'ai appris sur le tas.
Chez McKinsey, on n'apprend pas tout ça.
j'avais fait de la physique. Et j'avais étudié pendant 2 ans à Stanford, c'est-à-dire au cœur de la Silicon Valley, dans une université qui était elle-même à l'origine de beaucoup d'entreprises de la région. Donc je suis retourné là-bas en cherchant de petites maisons qui n'avaient pas les moyens de s'installer elles-mêmes en Europe et en voyant quel type d'accord je pouvais passer avec elles pour les représenter, donc dans le domaine de la technologie avancée. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Ça a bien marché, ça n'a pas donné... j'ai pas fait Apple en Europe. Ça a bien marché, j'ai bien gagné ma vie. Ensuite, je me suis occupé tout à fait par hasard de produits alimentaires pendant longtemps, parce que lorsque j'étais chez McKinsey en Italie, j'avais travaillé pour de grands groupes alimentaires qui eux-mêmes souhaitaient s'installer en Suisse. Donc, on a fait ça ensemble. Et puis...
Quel genre de produits alimentaires,
par exemple ? Alors, par exemple, j'ai créé la filiale suisse de Motta.
Ah oui.
Les glaces, les panettones,
gelati.
Etc. Les gelati. Et puis ensuite, Motta a fusionné avec Allemagne. Et puis ensuite, on a ajouté d'autres maisons. J'ai fait une association avec le groupe Vecchio, qui avait les salamis Rapelli, les salaisons Rapelli au Tessin. Ça a assez bien marché. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, de nouveau, j'étais en train de me mettre dans une situation pour laquelle je ne suis pas fait, parce qu'à l'époque, à un moment donné, au total, j'avais 150 collaborateurs. Et vous savez, quand on n'aime pas recevoir un ordre, on n'aime pas en donner. Moi, j'aime pas en donner. Et j'ai vendu ce que j'avais. Et parce que je me suis posé la question, quel est le domaine où on peut faire des affaires pratiquement sans limite en étant quasiment seul? Eh bien, c'est l'immobilier.
C'est vrai.
Et j'ai commencé l'immobilier en 1985. Et voilà.
Et voilà. Alors ça a très bien réussi. Et ça vous a permis après de vous adonner à vos passions.
Absolument.
Alors ça, c'est quand même la réussite. Parce que la réussite pour être toute la journée, enfin j'allais dire toute une vie engoncée dans des choses qu'on aime plus ou moins, c'est pas la vraie réussite. La vraie réussite, c'est de gagner assez d'argent pour ensuite faire ce qu'on aime.
Alors, j'aimais beaucoup, hein, l'immobilier, je dois le dire, j'aimais beaucoup faire des transactions. J'ai commencé par faire évidemment de la promotion, et puis en 1996, 5 ou 96, je suis rentré au conseil de l'Orchestre La Suisse Romande. En 2000, j'étais président.
Parce que vous êtes passionné de musique, ça on ne l'a pas encore dit.
Et à ce moment-là, j'ai transformé ma société de promotion, graduellement, mais fermement, en société d'investissement patrimoniaux. Et ça change tout. Parce que quand on est promoteur, on est dessus 24 heures sur 24. Tandis que là, avec une sorte de caisse de pension familiale, c'est beaucoup plus simple.
Un genre de family office.
Je ne sais pas. Moi, j'avais ma propre structure très, très légère et puis un portefeuille que j'ai constitué au fil des ans, mais que je ne gérais pas. Il était géré par ma fille, par ma femme, très très bien, très solidement. Et à la fin de l'année 2020, nous avons vendu l'essentiel du portefeuille à une grande caisse de pension baloise, la PKBS, Pensionskasse Baselstadt. Et voilà, et le produit a été réinvesti dans une seule multinationale dans laquelle je me sens
à l'aise.
Très bien.
Un homme heureux, avec un grand sourire, qu'il faut décrire à nos auditeurs.
Libéré de beaucoup de contraintes, et voilà, et donc extrêmement disponible pour la suite.
On va dire, vous êtes devenu écrivain, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez reçu environ 40 prix littéraires en France, ce qui n'est pas rien. Vous êtes commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres. Je salue un grand aîné. Et puis, vous avez collectionné aussi les engagements qui sont plus ou moins du mécénat. On va en parler aussi tout à l'heure parce que ça fait partie du beau personnage que vous êtes, mon cher Métine. Mais maintenant, on va de nouveau écouter un peu de musique.
Oui, alors on va écouter une des danses slaves, la numéro 2 de Dvorak. Dans laquelle je me retrouve, alors que je ne suis pas vraiment de cette région, mais les Balkans, comme l'Orient, on n'est pas loin, hein, les Balkans comme l'Orient, c'est une région où les gens ont connu beaucoup d'exil, beaucoup de guerres, et leur production artistique en particulier, leur production musicale, a une nostalgie qui est très spéciale, qui est très spécifique. On reconnaît aux premières notes un morceau qui vient d'Europe de l'Est. Il est toujours dans les beaux morceaux. Ils ont une façon de nous déchirer l'âme qui est particulière.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Metin Arditi. Vous avez suivi, chers auditeurs, le parcours de Metin Arditi jusqu'à maintenant. Et maintenant, nous allons parler de l'écrivain. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Un jour, vous avez décidé d'écrire?
Alors, ça a commencé très tôt. Ça a commencé quand j'avais 13 ans et que j'étais en internat. À Noël, je devais faire un cadeau à ma mère, je n'avais pas d'argent, et je lui ai écrit un conte. Et qui était du reste assez, très mauvais. Mais enfin, j'avais 13 ans, c'était
ben
en
oui,
quelque sorte...
C'est touchant.
Voilà. Et un camarade d'internat, dont le père s'occupait de littérature, m'a demandé d'en faire une copie. Alors j'ai tapé le conte, il l'a donné à son père, qui était le représentant en Suisse du groupe Hachette. Chez qui je suis édité aujourd'hui, puisque Grasset appartient au groupe Hachette. Et il l'a envoyé à Madame Lazareff, hein, la femme de Pierre Lazareff, qui était la directrice de Elle et d'un certain nombre de publications, voilà, de magazines féminins. Alors elle l'a fait publier dans un de ses magazines. Ça a commencé comme ça. Et puis après il y a eu la chape de plomb, parce que les études que j'ai faites étaient très difficiles, les études de physique, ça permet... Et je n'ai jamais voulu être, même après mes études, je n'ai jamais voulu être un écrivain du dimanche. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis fixé comme critère qu'il fallait que ce soit vraiment de qualité publiable. Alors une chose en amenant une autre... Pendant les années 80, de 85 à 88, 89, les affaires étaient vraiment très faciles à Genève, il faut le dire, dans l'immobilier. C'était de la folie et c'était quasiment impossible de ne pas gagner de l'argent. Et dans des quantités phénoménales. Pour moi, elles étaient phénoménales parce que je venais de 15 ans de commerce international où je travaillais dur, je voyageais beaucoup, je gagnais bien ma vie, mais pas plus que ça. Et je voyais autour de moi, dans le domaine, dans le milieu immobilier, des comportements qui me faisaient peur, parce que je me disais, mais je ne suis pas moins vaniteux que ces gens. Ça va m'arriver, ça va me tomber dessus. Et du coup, je me suis mis à lire La Fontaine. Tous les jours, j'avais... Les fables de La Fontaine sur mon bureau, au bureau. Et je lisais une, deux, trois fables tous les jours. Je ne signais pas de contrat ou d'acte avant de lire au hasard une ou deux fables. C'est-à-dire
le
rappel à l'humilité.
Oui.
Parce que La Fontaine, il faut dire ceci qui est assez... On passe ça sous silence. La Fontaine, allez... Le plus grand poète français, ça c'est sûr. Mais l'inspiration de ces fables est tout sauf monarchiste. C'est l'Orient, c'est Ésope, c'est cette sagesse du petit. C'est la sagesse de celui qui est faible et qui doit se protéger. Et surtout, qui ne doit pas tomber dans la vanité. Ça c'est le point fort. Donc voilà, ça s'est passé... Je lisais ces fables et j'en étais imbibé. Jusqu'au jour où j'ai croisé Michel Jeanneret, le professeur de lettres à l'université de Genève. Et une amitié est née. Et lorsqu'il a organisé un colloque en 1995, à l'occasion du tricentenaire de la mort de La Fontaine, il m'a demandé de faire l'une des présentations... en tant qu'honnête homme, pas en tant que spécialiste. Je ne l'étais pas, je ne le suis toujours pas. Mais en tant qu'honnête homme, qu'est-ce que La Fontaine m'apportait? Je l'ai faite, elle a plu. J'en ai fait un livre qui a été édité chez Zoé. Ça a démarré comme ça.
Alors en 88, vous avez créé aussi la Fondation Arditi.
Oui.
Il faut nous en parler.
Alors... effectivement, en 88, c'était ces années où les affaires marchaient très bien, j'étais très pris. Je dois dire que à partir de 1976, j'ai enseigné à l'école polytechnique. J'enseignais avant de partir aux États-Unis quand j'étais chercheur ou assistant étudiant. J'enseignais la physique. Ensuite, je suis retourné à l'école parce que j'aimais beaucoup cette atmosphère académique. Donc j'étais déjà à mon compte à Genève et je faisais des allers-retours une fois par semaine. J'enseignais la gestion d'entreprise et l'économie. Et puis j'ai dû arrêter. Et quand les affaires ont très bien marché, eh bien je dis, je fais faire une fondation dont le propos sera de saluer l'excellence des étudiants. Je trouvais que trop souvent en Suisse, on n'a pas ce réflexe de saluer l'excellence. Et je me souviens que l'élément déclencheur de la création de la Fondation Arditi, c'était que mon neveu avait passé, à l'époque c'était la licence de droit, et il avait reçu son diplôme par la poste. Et je me disais, c'est pas possible. C'est vraiment impensable,
oui,
une chose pareille.
C'était une fête.
Et je dis, je vais faire une fondation, et c'est l'occasion d'une fête aussi, parce que j'ai commencé au Grand Théâtre. Et donc, voilà. Et puis ensuite, cette fondation, elle a pris de l'ampleur, et maintenant, on remet les prix au moment où les différentes facultés remettent les diplômes.
Vous avez racheté aussi un cinéma dont la salle était classée monument historique.
Alors, il n'était pas encore classé, il était en recours de classement. Et j'ai acheté la salle, et j'ai moi-même demandé qu'elle soit classée. Et je l'ai remis, après travaux que j'ai fait en association avec la Fondation Wilsdorf, les travaux. Et on a remis la salle à l'État, principalement pour les activités du ciné-club universitaire. Et la salle est toujours là. Elle vient d'ailleurs d'être rénovée.
Vous avez fondé aussi les instruments de la paix.
Alors ça, c'est venu bien plus tard. Depuis des années, je voulais faire quelque chose au Proche-Orient. Mais je ne savais pas vraiment comment. Je connaissais mal la région, mais je voulais faire quelque chose qui rapproche juifs et arabes. J'avais très peur de me retrouver dans une situation de splash, vous savez, où on fait quelque chose, c'est très médiatique, et ensuite le soufflet retombe. Et je ne savais pas comment m'y prendre, jusqu'au moment où j'ai fait la connaissance d'un homme qui est devenu très important dans ma vie, vraiment, c'est mon frère, qui est Elias Sambar. J'étais en train de constituer, Patrick Ebischer, le président de l'école polytechnique à l'époque, m'avait demandé de constituer, de présider le conseil culturel de l'EPFL. Alors j'ai sollicité un certain nombre de personnalités culturelles et il me manquait quelqu'un de l'Orient. À l'époque, mon éditrice, Françoise Nissen, de Actes Sud, m'a dit « tu devrais contacter Elias Sambar ». Elias Sambar est toujours un homme éminent, diplomate, grand défenseur de la cause palestinienne. Il est palestinien. Et je me souviens, je lui ai dit, mais il va me dévorer tout cru, cet homme. Je l'ai déjà vu dans des débats, il est extraordinaire, il va me dévorer tout cru. Bah, Elias Sambar est devenu mon frère. Et je suis le sien. Nous avons fondé cette fondation. On s'est vu, je me souviens très bien, on s'est vu un soir à dîner, on ne se connaissait pas. Rien qu'à le voir venir vers la table, je me suis dit, ce regard est un regard de grand homme et de grand humaniste. Et voilà, c'est vraiment une histoire très forte. Alors on a créé ça pour aider des enfants israéliens, juifs ou arabes, peu importe, et peu importe la religion, à faire de la musique ensemble.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Métine ?
Alors, on va écouter quelque chose qui est, pour moi, la quintessence de l'art français, c'est la valse de Ravel.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Métine Arditi. Métine dont vous avez vu le parcours foisonnant, à la fois sur un plan d'affaires, sur un plan mécénat. Et maintenant, nous allons enfin parler du grand écrivain qu'il est. Métine, vous avez dit comment ça a commencé quand vous aviez 13 ans, mais depuis, vous avez écrit combien de livres? Vous avez écrit des livres, des essais, des pièces?
Oui,
vous avez compté tout ça?
J'ai écrit des... Alors, je crois que je dois être à peu près à 25.
Ah oui.
Principalement des romans, plusieurs essais, deux récits, deux pièces. Et puis j'ai écrit aussi beaucoup de chroniques. Pendant 3 ans, j'étais chroniqueur régulier à La Croix. J'avais la moitié de la dernière page. Pendant 3 ans, c'était un gros travail. Mais c'est vrai que c'était très difficile à combiner avec l'écriture romanesque. Donc j'ai arrêté.
Alors moi, je voudrais parler du dernier livre. Et puis après, on parlera du futur livre.
D'accord.
Alors le dernier livre, qui était édité justement chez Grasset, s'intitule « L'homme qui peignait les âmes ». Et c'est une très belle histoire. D'abord, c'est une histoire qui fleure bon l'Orient.
Ah oui, ça, elle se passe en Palestine.
Mais par moment, vous décrivez certaines scènes, on a l'impression qu'on va sentir ce que vous décrivez. C'est extraordinaire. C'est très beau, c'est très rare, ça. Parce que on lit... Il y a une distance avec le livre ou avec l'écrivain, pas là. Vous arrivez à nous mettre dans cette ambiance, dans cette chaleur, dans ces odeurs, dans ce parcours. C'est formidable. Alors racontez-nous l'histoire, pour autant que vous ne défloriez pas trop, parce qu'il faut ensuite que nos auditeurs se précipitent pour l'acheter.
Alors c'est l'histoire d'Avner, un garçon qui au début du récit a 14 ans, qui est né dans une famille juive d'Acre, Saint-Jean, qui est devenue Saint-Jean d'Acre, région qui est dominée à l'époque par les Fatimides, qui sont musulmans. Il est dans cette famille très religieuse, très pratiquante, et lui-même se révolte contre les dogmes de sa religion. C'est un garçon qui est amoureux de la création, de tout ce qui est beau dans la création, de ce qui est délicieux à dévorer, des odeurs, de sa jolie cousine.
Des papillons.
Des papillons qu'il suit, auxquels il donne des noms pour pouvoir ensuite se référer à eux. Et puis, un jour... Alors qu'il va livrer du poisson, lui et son père pêchent, à un monastère orthodoxe des environs d'Acre. Il est mis devant une chose dont il ne soupçonnait pas même l'existence. C'est une icône. Puisque dans la religion juive, il n'y a pas la représentation. Dans la religion musulmane non plus. Et il tombe amoureux de cette représentation. Alors il va tout faire pour consacrer sa vie à l'iconographie. Il va tricher, il va mentir, il va quitter les siens, il va quitter sa religion. Il sera bien entendu baptisé, mais même pour le baptême, il n'y croit pas vraiment. Mais il triche un peu.
C'est le passage obligé pour
faire ce qu'il aime. C'est le passage obligé parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'une icône ne se... On dit écrire une icône, puisque normalement, n'est-ce pas, on n'a pas non plus, dans la religion chrétienne, un libre passage complet pour la représentation. D'ailleurs, il y a eu l'époque des iconoclastes. Alors, l'icône consiste à représenter la part humaine de ce qui est divin, c'est-à-dire du Christ, de la Mère de Dieu, et des apôtres, des saints. Alors, lui va devenir un très grand iconographe.
Oui, mais ces icônes ne sont pas conformes au canon, j'ai lu.
Alors, au fil des ans, il va petit à petit s'éloigner des canons de l'Église au point où il sera à un moment donné chassé de son monastère où il était le meilleur iconographe. Et plutôt que de représenter la part humaine du divin, il va représenter pour des êtres humains leur part de divinité et ainsi leur apporter la consolation.
Le portrait du croisé, à cet égard, est magnifique.
Ah, merci, oui. Alors, voilà, le double portrait.
Oui,
là,
il fait un double portrait,
y a ce croisé, oui, qui, effectivement, j'ai fait correspondre l'histoire avec cette date de 1099, qui est la prise de Jérusalem par la première croisade, qui s'est soldée par un bain de sang général, et effectivement, ce personnage du croisé, qui arrive jusqu'aux portes de Jérusalem, refuse le massacre et retourne en Bourgogne. D'où il n'aurait jamais dû partir, oui, parce qu'il avait une vie merveilleuse dans cette région de la France, qui est une des plus belles et une des plus riches.
Alors ça, c'est L'homme qui peignait les âmes, donc c'est votre dernier roman aux éditions Grasset. Et maintenant, je voudrais qu'on parle du futur livre qui va sortir bientôt.
Alors, dans quelques jours, sort mon troisième dictionnaire amoureux. J'en ai fait un sur la Suisse, dictionnaire amoureux de la Suisse, dictionnaire amoureux de l'esprit français. Le premier, c'était sur mon pays d'adoption. Le deuxième, le pays de la langue. Et puis le troisième qui va sortir maintenant, c'est le dictionnaire amoureux d'Istanbul, c'est-à-dire sur...
Vous revenez aux sources.
Voilà, je reviens aux sources. La boucle est bouclée, ma ville natale.
Et là, vous vous retrouvez le petit garçon de 7 ans ?
Ah oui, absolument. Oui,
c'est
oui.
Vrai.
Et c'est joie naïve.
Alors, j'ai regardé, j'ai lu plusieurs interviews de vous dans lesquelles vous expliquez qu'en fait, vous ne collectionnez rien. En fait, vous êtes un homme libre, Métine. Ça me semble une évidence. Vous avez fait vos choix, vous avez quitté quand vous avez décidé vos différents univers. Et puis aujourd'hui, vous faites ce que vous aimez, vous décrivez aussi votre bibliothèque. À un moment, vous dites, voilà, je suis assis là, je ne suis même pas tellement allé dans mon jardin. Tout à l'heure... vous m'avez raconté avant d'enregistrer que grâce à la pandémie, vous aviez découvert votre jardin.
Oui.
Donc au fond, vous êtes un homme complètement libre qui allait vers ses passions, vers ses engagements. C'est très beau ça, et c'est très rare surtout.
Alors c'est vrai que là, comme ça, sur papier, je suis libre. Mais en même temps, je suis pris par l'écriture. Ça, je dois vous le dire, c'est pas des mots. Il y a quelques jours, au terme du dernier week-end, j'ai dit à ma femme, je crois que je suis l'homme le plus con que j'ai jamais rencontré.
Ça m'étonnerait, ça.
Elle me dit, pourquoi ? Je dis, voilà, parce que j'ai passé un week-end épouvantable. Je n'arrive pas à saisir un de mes personnages du roman sur lequel je suis en train de travailler. Et il faisait beau, j'aurais pu partir, on aurait pu aller en week-end quelque part, voyager ou même respirer, aller au bord du lac, peu importe. Je suis resté dans la maison comme un vieux crouton à essayer de capter ce qui se passe dans la tête de ce personnage qui est une moniale grecque des années 50. C'est difficile, il y a beaucoup de choses qui me séparent d'elle. Et...
Métine, moi, c'est votre femme que j'admire.
Ma femme, oui.
Et elle m'a Léana.
Dit, oui, là, et elle m'a dit, tu ne sais pas la chance que tu as.
D'avoir une femme comme elle.
Ah ben, ça, sûrement qu'elle le pense. Mais elle faisait référence au fait que avoir une passion, et une belle passion, parce que c'est une belle passion,
c'est
l'écriture.
C'est une belle passion.
Et une passion... vous savez, l'origine, évidemment, c'est le pathos, c'est-à-dire la maladie. Mais le mot le plus proche de passion en français, c'est passif. C'est-à-dire qu'une passion vous laisse dans un état où vous ne pouvez pas lutter contre. En grec, par exemple, si on dit à quelqu'un « Tiepathes », qu'est-ce que tu as subi ? Epathes, c'est la même racine. Donc, on subit ça. Alors, effectivement, j'ai une grande chance d'être libre sur un plan matériel, aussi sur un plan hiérarchique. Je n'ai pas de compte à rendre. Et ça, c'est un grand bonheur.
Et une femme compréhensive.
Et une femme très compréhensive.
J'insiste.
Et qui partage aussi mon goût pour l'écriture et pour la littérature. Elle a fait vraiment des lettres. Elle a une vraie culture que moi, je n'ai pas. Mais c'est vrai que l'écriture est elle-même un rappel à l'humilité et à une forme de discipline.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors on va écouter une chanson interprétée par une chanteuse italienne qui s'appelle Mina, que j'ai eu la grande chance de croiser quand j'avais 14 ans. Elle devait en avoir une dizaine de plus. Elle était ravissante et elle était en maillot de bain. C'était à San Remo. C'est une chanteuse populaire de grand succès, mais j'ai choisi cette chanson pas parce que c'est elle qui la chante. La chanson s'intitule « E se domani », c'est-à-dire en italien « Et si demain ». Elle dit « E se domani io non potessi rivedere te », si demain je ne pouvais plus te voir parce que tu en aurais assez de moi. Et c'est une chanson qui revient en ritournelle dans un roman que j'ai terminé et qui va sortir au mois de mai.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine, avec Métine Arditi. Métine, nous venons de le voir, est un grand écrivain. Donc il est suisse, il est francophone, il est d'origine turque, il est très connu. Il a accumulé aussi d'autres titres de notre reconnaissance et de notre admiration. Il a été en 2012 nommé par l'UNESCO ambassadeur de bonne volonté. C'est très prestigieux et c'est très beau. Et vous êtes maintenant en train d'écrire le dictionnaire amoureux d'Istanbul. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous retrouviez le petit garçon de 7 ans. Vous êtes un écrivain de l'intime. Tous vos livres traitent de la difficulté, de la filiation, de la solitude, de l'exil. Beaucoup viennent de là. Beaucoup viennent de cet internat. Beaucoup viennent de cet internat. Ce petit garçon qui s'est senti abandonné, au fond.
Ah, je pense que tout vient de là. En tout cas, tout ce qui, pas seulement tout ce qui touche à l'écriture, mais tout le reste, je crois aussi. Tout le reste. C'est-à-dire que Je crois qu'on passe sa vie à essayer de dire que qu'on vaut mieux que d'être abandonné.
Vous êtes senti vraiment abandonné, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont en pensionnat, mais dans des pays où c'est la mode d'envoyer les enfants en pensionnat, puis peut-être pas à 7 ans non plus.
D'alors, un, pas à 7 ans, deux, pas si longtemps, et trois, à une autre époque peut-être, parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi j'ai des petits-enfants qui ont passé qui un an, qui deux ans en internat en Angleterre, ça leur a fait beaucoup de bien. Mais il y avait les téléphones portables, il y avait les voyages, il y avait...
Vos parents ne venaient jamais vous voir ?
Très peu.
Très peu.
Très peu.
Il y a une raison, ça ?
La raison était que c'était loin, c'était compliqué. Mon père passait deux, trois fois par année par Lausanne et je le voyais le temps d'un week-end. Ensuite, je le voyais peut-être quelques jours pendant l'été. Où l'été, je passais les vacances de Noël, de Pâques et un des deux mois d'été en internat. Le deuxième mois d'été, j'allais dans un hôtel quelque part avec ma mère et ma sœur. Et cet hôtel pouvait être en France, en Suisse, en Italie, souvent en Italie. Et ces hôtels, dans ce deuxième mois d'été, c'était le mois de l'amour maternel. Et pour moi, les hôtels sont des lieux d'amour. Je passe beaucoup de temps dans les hôtels. Si j'ai l'occasion d'aller à Lausanne et une excuse pour rester la nuit, je vais à l'hôtel la nuit. Je reste à l'hôtel.
Vous vous sentez protégé ? Vous vous sentez en accord ?
J'aime le confort, j'aime le souvenir que cela déclenche. C'est très subtil, l'hôtel, parce que à la fois, on est totalement chez soi, c'est-à-dire qu'on est choyé, on est reçu, on est servi, tout le monde est gentil, et en même temps, on est de passage. C'est assez... et on n'est pas chez soi.
C'est une métaphore de la vie.
C'est très paradoxal comme situation.
On n'est pas là pour longtemps.
On n'est pas là pour longtemps. Donc, pour moi, et donc quand je vais à Paris, et je vais régulièrement à Paris depuis plus de 30 ans, la question d'y avoir un appartement ne s'est jamais posée.
Alors racontez-nous ce que vous faites à Paris, parce que vous êtes dans un certain nombre de jurys, vous faites beaucoup de choses que vous nous cachez là, jusqu'à présent, Métine.
Je n'en cache aucune. je suis dans le jury du prix des écrivains du Sud que je préside, je suis au jury du prix Jean Giono que j'ai reçu. J'étais au jury du prix Méditerranée que j'ai reçu également. Mais je n'y suis plus, c'est dommage, parce que le président du jury est un type formidable, c'est André Bonnet. Vraiment, c'est un type formidable. Et puis, c'est compliqué, parce qu'à Perpignan, il est aujourd'hui adjoint au maire pour la culture, mais le maire est un ex du Front National. Donc c'était un peu compliqué pour moi de rester dans ce cadre. Mais voilà, donc j'ai ces deux jurys. Et puis ensuite, évidemment, j'ai mes activités d'écriture et ce que ça implique aussi comme contact avec les éditeurs, avec les médias, les rencontres littéraires. Et puis il y a l'UNESCO. Donc voilà, l'une chose en amenant une autre, il y a toujours plus de motifs pour moi de rester à Paris. Et maintenant, depuis la rentrée littéraire, je suis au comité de lecture de Grasset. Ce qui veut dire en tout cas que chaque 15 jours, j'ai une après-midi sur place consacrée à cette
rencontre.
Et
vous devez lire, donc.
Ah oui, je dois lire. Voilà. c'est le moins qu'on puisse dire. Je dois lire beaucoup.
Je vais vous ramener à Genève parce que vous avez créé un concours d'écriture romanesque entre étudiants israéliens et juifs et arabes. Et puis vous l'avez fait de façon similaire entre les universités turques et arméniennes.
Oui.
C'est très beau ça aussi.
Alors c'était fantastique. La partie juif arabe, ça continue, c'est très fort. Ça marche vraiment très bien. On travaille avec les... 8 grandes institutions d'éducation supérieure en Israël, les 6 universités, plus l'Institut Weizmann et le Technion de Haïfa. Et il y a des échanges d'écriture romanesque, ça marche très très bien. Entre la Turquie et l'Arménie, ça a démarré avec, après énormément d'efforts, des deux côtés. C'est très beaucoup plus difficile.
Oui, c'est très compliqué.
Et puis malheureusement, après avoir fait ça pour une session, j'ai arrêté parce qu'il y a eu la tentative de coup d'État à Istanbul en 2016. Et un certain nombre de mes amis ont perdu leur travail. L'un d'entre eux a été emprisonné. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que je ne le sais pas.
Il ne le sait peut-être pas non plus.
Probablement. Et l'université où j'allais, qui était en quelque sorte, disons, la base de tout ça, qui était l'université du Bosphore, Boğaziçi Üniversitesi, j'y allais comme on va au campus, et aujourd'hui, il y a la police. Donc, et l'entrée est donc, c'était impossible de continuer. J'espère que les choses vont se remettre dans une configuration plus démocratique bientôt. Et à ce moment-là, je reprendrai le bâton de pèlerin, ça c'est sûr.
Alors, depuis 2016, vous présidez la Fondation Pôle Autisme, qui est active dans la recherche, le diagnostic précoce, la thérapie. Il y a une raison à ça ?
Alors, la raison est que j'ai écrit un roman intitulé « L'enfant qui mesurait le monde ». Et au début de l'écriture, je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait devenir de cet enfant. Je le voyais sur une petite île grecque, plutôt taciturne, sage. Et puis, j'ai compris très vite que cet enfant, au fond, était un enfant autiste. Et j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane Eliès, le professeur de psychiatrie à l'université, qui a fondé la Fondation Pôle Autisme, et qui est mon gendre. Et j'ai beaucoup travaillé avec deux dames qui ont fait leur doctorat avec lui. Et la semaine où j'ai envoyé mon dernier fichier chez Grasset, après avoir travaillé pendant 2 ans ce roman et donc avoir côtoyé la question de l'autisme de près, Stéphane est venu me voir au bureau, il m'a dit « Voilà, écoute, moi je voudrais passer plus de temps en tant que médecin au sein de la Fondation, est-ce que tu voudrais en prendre la présidence ?» Voilà, comme je n'ai jamais eu de problème pour m'occuper de choses que je ne connaissais pas, j'ai dit bien sûr, je ferai ce que je pourrais. Et voilà, ça s'est passé il y a, je crois, 5 ans. Et depuis, la fondation se développe, mais alors vraiment grâce à Stéphane, pas du tout grâce à moi, vraiment pas du tout. Mais grâce à Stéphane, elle se développe de façon spectaculaire.
Mon cher Métine, on arrive malheureusement au terme de cette émission, mais vous allez revenir puisque vous avez encore sous roche beaucoup de romans. Donc, vous avez été un petit garçon qui a souffert de l'abandon, un homme d'affaires à succès. Vous êtes un grand mécène, vous êtes un grand écrivain, vous êtes un beau personnage. Merci d'être venu nous exprimer tout cela, nous raconter tout cela au micro de Radio Cité Genève.
Merci Viviane.
Merci à vous Métine. Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. Et à bientôt.
Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
La bouteille à moitié pleine.